Lille Info présente aujourd'hui l'année mondiale de l'astronomie. Notre invité, Alain Vienne, professeur responsable du département astronomie de l'Université de Lille. Bonjour Monsieur Vienne.
Bonjour.
Donc, une année mondiale, on peut au moins faire ça quand il s'agit d'astronomie. On va tellement loin que le monde est relativement petit par rapport à l'objectif visé.
Oui, le monde est très petit, mais pour l'instant, les hommes sont sur cette planète Terre et on est les seuls, à notre connaissance actuellement, à y être. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et en effet, l'UNESCO a déclaré en début d'année, enfin, l'avait déclaré avant, mais il l'a déclaré officiellement en début d'année, comme 2009 étant l'année mondiale de l'astronomie. Le prétexte étant les 400 ans de la découverte de la lunette par Galilée. Et je dis découverte de la lunette, en réalité la lunette existait déjà, mais c'est Galilée qui, pour la première fois, l'a utilisée pour observer le ciel et en faire des déductions très très importantes, puisque ça a révolutionné l'astronomie, qui est en quelque sorte devenue astrophysique à ce moment-là.
Alors avant Galilée, l'origine géographique de cette lunette, on peut la fixer en termes de civilisation? Qui est-ce qui a porté un peu, qui a amené cette connaissance?
J'ai entendu dire que cette lunette, on ne le sait pas bien en réalité. Hein, mm-hmm. Donc il y a plusieurs pistes qui sont données. Il y en a une qui dit que Galilée l'aurait eu par des marchands hollandais ou mm-hmm. par des personnes des Pays-Bas qui utilisaient déjà cette lunette. Donc, mais c'est le premier qui l'a pris pour le pointer vers le ciel et surtout il l'a amélioré. Il l'a amélioré pour pouvoir faire des observations de type astronomique, c'est-à-dire pour des objets qui se trouvent très loin, on dit à l'infini, par rapport à des objets terrestres.
Alors Galilée a déduit de ses lunettes certaines lois physiques, je suppose?
Pas vraiment. Disons qu'il a d'abord observé, mmh. et l'observation physique est très importante. Il a observé des taches sur le Soleil. Ça posait problème parce que le Soleil est un astre du ciel, qui est donc considéré comme parfait avant dans l'Antiquité et ensuite au Moyen-Âge. Et tout ce qui était dans les cieux devait être parfait, notamment le Soleil. Donc il avait observé des taches sur le Soleil qui posaient un peu problème. Il a observé aussi des montagnes sur la Lune, grâce à cette lunette, bien sûr. Il a observé des montagnes grâce à il a même mesuré la hauteur de ces montagnes en calculant l'ombre que l'on voyait sur la Lune, etc., l'ombre des cratères. Il y a vu des mers, bon, c'est pas des mers remplies d'eau sur la Lune, mais bon, à l'époque, on ne le savait pas, c'était des mers, des montagnes. Et donc, ça faisait penser à des paysages terrestres. Donc là aussi, c'est important, on allait vers la pluralité des mondes. Et il a découvert surtout des satellites à la planète Jupiter, c'est-à-dire des corps qui tournent autour de Jupiter. Et ça, c'est important parce que c'était la première fois où on voyait des corps qui tournaient autour de quelque chose autre que la Terre. Normalement, on avait l'impression que tout tourne autour de la Terre, et là, pour la première fois, ce n'est pas le cas. Donc il a observé, il n'a pas fait vraiment de théorie, mais il a lancé beaucoup d'idées révolutionnaires, on pourrait dire.
Oui, et perturbatrices surtout.
Oui, notamment, au domaine des idées, c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle le principe d'inertie, on pourrait dire aussi le principe d'équivalence, notamment, c'est-à-dire que en mécanique, on dit quand on a deux corps qui sont en translation uniforme l'un par rapport à l'autre, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun fait observationnel qui permet de dire lequel est en mouvement, lequel est immobile. C'est une constatation qu'on fait assez facilement quand on est dans un train qui se met en marche régulièrement, c'est-à-dire qu'on ne sent pas l'accélération, qui du coup est une force. Si on ne sent pas l'accélération, le mouvement est en rectiligne uniforme. Et si on n'a pas de repère, cette notion est importante, si on n'a pas de repère, on ne sait pas si c'est nous qui sommes en mouvement ou si c'est le train d'à côté. Mmh. Donc c'est ce genre de constatation qui a fait.
Alors de son poste d'observation, on va rappeler les dates à peu près, Galilée.
Galilée 1609 pour la lunette.
Mmh. Donc, en l'espace de 400 ans, on va dire, c'est sûr que le point d'appui à partir de lequel il voyait le monde, on ne sait pas trop s'il a reculé ou avancé par rapport au support, aux objets visualisés.
Oh, c'est-à-dire que maintenant, on le sait dans le sens où on sait par rapport à quoi on mesure les choses maintenant. Galilée a dit que tous les mouvements étaient relatifs, et à partir du moment où on admet cette chose-là, du coup, on peut mesurer les mouvements les uns par rapport aux autres. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Et la deuxième chose qui a permis justement d'avancer, de pouvoir étudier les mouvements, de savoir s'il a avancé. Bon, avancer, ça veut dire avancer, reculer, c'est-à-dire qu'on pose un sens. Hein, donc dans les mouvements, il n'y a pas spécialement de sens, ou alors c'est nous-mêmes qui le choisissons. L'idée importante aussi qu'il a dit, c'est qu'un corps ne se met pas spontanément en mouvement. C'est-à-dire que s'il est au repos, ou s'il y a un certain mouvement qui est ensuite un autre mouvement, c'est qu'il y a une cause à ce mouvement. Ce qu'on appelle le principe de causalité. Et ça, c'est à la base des mathématiques. Alors lui, il n'a pas découvert tout ça, il n'a pas vraiment formalisé. C'est Kepler et ensuite surtout Newton après qui l'a fait. Mais c'est lui qui a jeté les idées.
Cette cause, elle peut être interne à la planète ou...
Alors la cause en astronomie, elle est principalement d'ordre gravitationnel. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais de Newton. Newton a inventé, ou disons, a posé la notion de masse. C'est-à-dire que c'est une propriété intrinsèque des objets, qui est la masse, indépendamment de sa composition. Un corps qui est de plume, de plomb, de bois, a une masse qui le caractérise, qui ne correspond pas vraiment à sa matière, et qui est la cause la cause du changement des mouvements. C'était l'idée de Newton, qui a ensuite été chamboulée par celle d'Einstein, mais au départ, c'était l'idée de Newton. Alors cette cause, en réalité, il ne l'explique pas vraiment. Il dit, il y a une cause, on la nomme force, qui est la force gravitationnelle. Je constate qu'elle est inversement proportionnelle à l'inverse de la distance, à l'inverse du carré de la distance, pardon, et proportionnelle aux masses. Donc il le constate sans vraiment l'expliquer. Ce qui posait problème d'ailleurs aux cartésiens à l'époque, parce que Newton voyait la main de Dieu dans cette force. Et les cartésiens auraient préféré des forces de contact. Quand on prend un objet, on le pousse de sa main ou avec autre chose, et donc ou à travers un milieu de l'air, de l'éther éventuellement, et cette force de Newton apparaissait magique. Donc en fait, c'est plutôt cette force, c'est une notion mathématique en réalité, que Newton ne cherche pas à expliquer en bon pragmatique, en langue de saxonne, mais qui modélise.
Est-ce qu'une éruption volcanique ou une explosion nucléaire peut éventuellement modifier des trajets?
Des éruptions volcaniques, peut-être pas. Je ne sais pas si on peut le mesurer. Des tremblements de terre, oui. Sur la rotation de la Terre, ça, c'est... maintenant, on arrive à le mesurer. Il y a eu un tremblement de terre, c'est le fameux tremblement de terre qui était à l'origine du tsunami. On a mesuré une très, très légère variation de la rotation de la Terre due à ce mouvement. Après, on sait que le mouvement d'atmosphère elle-même sur la Terre donne des variations de la rotation de la Terre sur elle-même, ce qui pose un peu problème parce que les mouvements d'atmosphère ne sont pas spécialement prévisibles, ou en tout cas très difficilement prévisibles, et du coup, à une certaine précision, on n'a plus cette prévisibilité pour la rotation de la Terre.
Alors, à cette époque de Galilée, il pouvait voir avec ses lunettes à une certaine distance, et quand on dit une certaine distance, on peut dire à un certain temps, les planètes ou les astres qu'il observait. Plus on avance dans le temps et plus on va loin et plus on voit en arrière aussi.
Oui, à l'époque de Galilée, on ne s'en rendait pas compte parce que le phénomène auquel vous faites allusion, c'est le fait que la vitesse de la lumière a une valeur finie, qui est exactement 300 000 km par seconde. Et au moment de Galilée, on ne le savait pas, on ne savait pas ce que c'était que la lumière. Newton a commencé à le comprendre. Et on pensait que c'était une interaction, qu'elle voyageait à l'infini. C'était instantané. C'est-à-dire que quand une lampe émet la lumière, instantanément, on la reçoit. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Alors, maintenant, vu cette vitesse est finie, elle est très très rapide, 300 km par seconde, c'est très très rapide. Mais les distances en question sont tellement grandes dans le système solaire, dans la galaxie, même dans l'univers, elles sont tellement grandes que cette vitesse, elle se mesure. Le Soleil, la lumière qu'on reçoit maintenant, elle a mis 8 minutes pour nous parvenir, donc c'est relativement court. La plus proche étoile, donc après le Soleil, qui n'est pas notre étoile, donc la plus proche étoile, c'est le Proxima du Centaure, elle se trouve à 4 années-lumière. Mm-hmm. Donc la lumière doit mettre 4 ans à la vitesse de 300 000 km par seconde pour nous parvenir. La galaxie est même fait 300 000 années-lumière. Et donc, du coup, en effet, on voit le Soleil comme il était il y a 8 minutes. On voit cette étoile Proxima du Centaure comme elle était il y a 4 ans. Donc là, c'est pas bien méchant. Mais on voit des étoiles en galaxie comme elles étaient il y a 100 000 ans. Et si on regarde dans d'autres galaxies, on les voit comme elles étaient il y a plusieurs millions d'années. Et donc, en effet, les astronomes, quand ils ont constaté ce phénomène-là, ont pu plus regarder loin, plus regarder aussi loin dans le temps. Mmh. À un point tel qu'on peut même remonter la fameuse... on peut même remonter jusqu'au presque aux origines de l'univers. Notamment, on a vu les traces de l'explosion primordiale, on peut dire, de le Big Bang, qui a eu lieu il y a, on ne sait pas encore exactement, mais 10-15 milliards, il y a 10-15 milliards d'années, comme étant le rayonnement diffus du fond, le fond cosmologique, ce qu'on appelle le rayonnement à 3 degrés Kelvin. 3 degrés Kelvin, c'est en fait moins 270 degrés. Celsius, au-dessus de zéro.
Alors, effectivement, on peut voir loin, mais quand on dit voir, bon, ça sous-entend soit avec les yeux, soit avec des lunettes spéciales, des objectifs, enfin, vous nous expliquerez tout cela, mais on peut aussi voir par le calcul, enfin, apprécier, avoir une idée qu'il existe quelque chose en voyant des interactions avec d'autres choses qu'on voit réellement. On imagine qu'il doit y avoir quelque chose à un endroit précis aussi.
On peut voir par le calcul, mais dans ce cas-là, je dirais pas voir, je dirais on peut deviner par le calcul, on peut interpréter ce que l'on voit par le calcul. On peut prédire des choses. Mais voir, ça reste voir à mon avis. C'est-à-dire que la physique, la science, on peut faire toutes les théories que l'on veut. C'est l'observation, donc c'est ce que l'on voit qui a la primeur, ça doit correspondre. Alors c'est vrai qu'on peut voir par le calcul, l'exemple le plus fameux en quelque sorte, c'était au 19e siècle, Le Verrier, qui a découvert la planète Neptune au bout de sa plume, comme disait François Arago, qui était un astronome et aussi un homme politique de la Deuxième République. Il a découvert Neptune au bout de sa plume, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Mais il y a quand même eu des observations. C'est-à-dire que Le Verrier n'était pas du tout un observateur. Il dédaignait les observations, il méprisait même les observateurs. Et lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'était les calculs. Et il était très fort en ça, il faisait les calculs. Et il a fait les calculs notamment de la position, prédire la position des planètes du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Uranus, qui venait d'être découverte il n'y a pas très longtemps grâce au télescope, il y a quelques dizaines d'années précédemment. Et il se posait un problème, c'est que Neptune n'était pas à la place prédite. Et les calculs étaient bons, la loi Newton, on avait quand même relativement bien confiance en elle. Donc il se pose un problème, et Uranus n'était pas à sa place. Et l'idée de Le Verrier, en fait, en réalité, c'est une idée de François Arago, justement, qui a dit à Le Verrier de regarder. Regarde un petit peu s'il n'y a pas une autre planète qu'on ne connaît pas, qui viendrait perturber, justement, par les perturbations tout à l'heure, qui viendrait perturber, par l'attraction gravitationnelle, la planète Uranus. Et de par les positions observées, donc cette fois-ci, c'est toujours voir, de par les positions observées, et ensuite, évidemment, par le calcul, il a deviné, il a prédit une position de planète que personne n'avait vue. Il a même envoyé un télégramme après la fin de ses calculs à un astronome berlinois en disant, l'astronome berlinois, je crois que c'est M. Gall, en lui disant, monsieur, regardez à tel endroit dans le ciel, tel jour à telle heure, vous devriez voir la planète qui perturbe Uranus. Et c'était Neptune. Donc ça, c'est assez extraordinaire, en effet.
Alors, donc, tous les scientifiques du monde qui travaillent dans l'astronomie, je suppose qu'ils doivent être connectés en permanence les uns aux autres pour se donner des bonnes nouvelles, ou peut-être de mauvaises. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle en astronomie ?
Justement, j'allais vous le demander. Ben, les bonnes nouvelles, c'est quand les observations confirment ce que l'on voit. Comme quand le Gall lui a répondu à Le Verrier, oui, j'ai vu votre planète, elle a bougé dans le ciel, c'est bien une planète, ça c'est une bonne nouvelle. Après, est-ce que les autres nouvelles, on peut les appeler des mauvaises nouvelles? Je pense par exemple à l'exemple de le problème de la matière noire, c'est-à-dire c'est de la matière. Quand on regarde les mouvements dans la galaxie, le mouvement de la galaxie elle-même, les étoiles dans la galaxie, ça ne correspond pas à la matière que l'on voit. On voit une matière par la luminosité, et quand on calcule cette masse de matière, et qu'ensuite on fait des calculs correspondant aux trajectoires des étoiles dans cette galaxie, ça ne correspond pas, et on dit donc qu'il devrait y avoir une autre matière qu'on ne voit pas, qu'on appelle la matière noire, qui devrait expliquer ces choses-là, et on la cherche, on a du mal à la trouver. Donc il y a eu des campagnes d'observation pour regarder après les planètes qu'on appelle les naines brunes, tout ça pour voir s'il y avait assez de naines brunes, de la matière noire, pour expliquer, et ça, la pêche était mauvaise, mais c'est pas spécialement une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il faut chercher ailleurs.
Alors est-ce que la naissance ou la mort d'Anna, c'est plutôt une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle du point de vue de l'astronome?
C'est un fait. Maintenant, on peut l'avoir du point de vue de l'astronome en tant que scientifique. C'est un fait, et il regarde les faits de manière neutre. Après, l'astronome, c'est un humain, comme tout le monde. Il peut avoir un jugement là-dessus, et en effet, il peut se dire que c'est une bonne chose, parce que si les étoiles ne disparaissaient pas, souvent en explosant dans le ciel, elles n'auraient pas ensemencé l'univers de corps plus lourds, comme le fer, et toutes les matières qu'on connaît sur Terre, et du coup l'univers aurait été extrêmement extrêmement pauvre, et surtout la vie n'aurait pas pu exister, parce que il faut savoir que les étoiles sont constituées, comme l'univers, sont constituées en grande majorité d'hydrogène, qui est l'élément le plus simple dans l'univers. Le mécanisme dans les étoiles, c'est de transformer l'hydrogène en hélium, mais puis j'ai envie de dire, c'est pratiquement tout. À la fin de sa vie, justement, elle transforme l'hélium en carbone, et puis après, tous les éléments comme ça jusqu'au fer, les éléments les plus compliqués ou les plus lourds, disent les chimistes. Et à la fin de leur vie, elles explosent et elles font tous les éléments que donne la chimie. Et se répartent et ensemencent l'univers. Et ensuite, quand il y a d'autres étoiles qui naissent de ces nuages de gaz qui contiennent maintenant du carbone, maintenant de l'uranium, maintenant de ceci, de cela, ces nouvelles étoiles contiennent ces éléments-là. Et les poussières qui sont autour de ces étoiles, qui forment des planètes, contiennent des éléments beaucoup plus riches que l'hydrogène ou l'hélium, et qui, à ce moment-là, peut former des éléments comme les roches ou tout ce qui est carboné à l'origine de la vie, notamment.
Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est Lavoisier qui disait ça?
Oui, en chimie, c'est ce qui se dit. Le principe de conservation, oui, c'est valable aussi en astronomie. En tout cas, le problème après, c'est de savoir qu'est-ce qui se perd, qu'est-ce qui se crée. À un moment donné, en mécanique, on va dire classique, la masse ne se perd pas. L'énergie est conservée. Donc le fait que la masse ne se perd pas, ça, c'est un peu je pense que c'est l'idée de Lavoisier. En relativité générale, ce n'est plus le cas. C'est l'énergie qui ne se perd pas, qui est conservée. Par contre, la masse peut se perdre, mais dans ce cas, elle est transformée en énergie. Mm-hmm. Donc, quand on dit rien ne se perd, rien ne se crée, il faut dire, attention, qu'est-ce qui ne se perd pas, qu'est-ce qui ne se crée pas? Quelle quantité est conservée?
D'accord.
Et ça peut changer suivant la théorie en cours, en quelque sorte.
Mm-hmm. Dans ces dernières années, ou pourquoi pas cette année, est-ce qu'on a découvert de nouveaux astres?
Ah oui, les exoplanètes. Je ne pourrais pas les citer, d'abord parce qu'elles n'ont pas spécialement de nom. Leurs étoiles ont un nom, je ne sais plus comment on les nomme, peut-être par des lettres ajoutées au nom de l'étoile ou un chiffre. Mais on découvre des exoplanètes, je ne vais pas dire tous les jours, mais pratiquement.
C'est quoi une exoplanète?
Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'un astre autre que le Soleil. Puisque jusqu'à présent, jusqu'à récemment, les seules planètes qu'on connaissait, ce sont les planètes de notre système à nous, les planètes du système Soleil. Mmh. Le Soleil est une étoile, c'est une étoile comme les autres, mais elle est quand même particulière parce que c'est notre étoile. Les planètes Mars, Jupiter, Mercure, etc. tournent autour du Soleil. Donc c'est notre étoile. Et avant, on ne connaissait pas d'autres planètes que celles de notre système solaire. On se doutait bien, en voyant la multitude des étoiles, on se doutait bien qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas de planète autour des autres étoiles, mais on ne l'avait pas vu. Et maintenant, c'est fait.
Alors, quand on dit on se doutait bien qu'il n'y avait pas de raison, est-ce qu'on peut appliquer ça aussi à la vie, sinon à l'homme ?
On peut l'appliquer, mais c'est toujours pareil. Tant qu'on ne l'a pas vu, on a toujours le droit d'en douter. On peut toujours avoir de très bons arguments pour en douter. Le problème, c'est toujours pareil, c'est de savoir quelle probabilité d'apparition de la vie. Si c'est un événement très très improbable, ça pose problème. Et c'est pareil pour les planètes. Si la formation des planètes est un événement improbable, ça aurait pu être les seules planètes. Mais ça, franchement, on n'y croyait pas trop. Ça ne me paraissait pas. La théorie des formations du système solaire, donc qui est cette théorie de formation du système solaire qui est basée sur l'observation du système solaire, et puis c'est tout, montrer que c'était pas spécialement improbable, mais c'était qu'une théorie qui avait été vérifiée que sur un seul système. Maintenant qu'on voit d'autres systèmes planétaires, ça nous permet justement de confronter cette théorie des formations des systèmes planétaires. Et justement, il y a eu quelques problèmes. Le fait qu'on ait découvert d'autres systèmes planétaires, les théories de formation du système solaire qu'on avait ont dû être réajustées parce que c'était pas exactement ça, quoi. Donc on peut avoir des surprises de la même manière pour la vie.
Alors entre la rigueur du scientifique, astronome, et l'imaginaire, l'imagination du créateur de science-fiction, par exemple, est-ce que vous avez des exemples d'écrivains visionnaires ?
Oui, j'ai évidemment Jules Verne. Après, je ne suis pas très... Contrairement à d'autres personnes, je ne lis pas beaucoup de science-fiction. Je ne sais pas, ça correspond peut-être pas à ma sensibilité, mais j'ai d'autres collègues qui en sont très très friands, donc ils pourraient peut-être vous en parler plus. Moi, par contre, je suis moins, mais sauf Jules Verne, mais qui est un peu spécial, parce que c'était au 19e siècle, et oui, il a été visionnaire. Et je sais qu'il y a d'autres exemples de ce type-là, en littérature plus récente, où les gens ont... imaginer des choses qui se sont produites, mais rarement exactement comme il le disait quand même.
Jules Verne avait une culture scientifique aussi, à la base ?
Je ne crois pas. Enfin, oui, quand même, mais une culture scientifique assez limitée. D'ailleurs, on y trouve quelques erreurs, même grossières, dans ce livre. Mais il était curieux de la science. Il était curieux et il s'entourait de scientifiques. Notamment, j'ai relevé quelques erreurs dans un livre de Jules Verne, L'île mystérieuse. L'erreur en question, quand on l'analyse, on se rend bien compte que c'est une erreur, mais ça faisait vrai quand même. On sent bien qu'elle était issue d'un calcul et a dû se tromper de signe quelque part. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait fait le calcul. D'accord. C'est quelqu'un d'autre qui a fait le calcul, à mon avis, quoi.
Est-ce qu'il y a des théoriciens qui ont été peut-être célèbres et qui sont bien trompés ?
Ah. Oui, ça a dû arriver, mais j'ai pas d'exemple en tête là comme ça.
On dénonce pas ses camarades, on a compris. Ouais. Donc, pour revenir à cette année mondiale de l'astronomie qui est en 2009, hein, oui. Qu'est-ce qu'il y aura comme grands événements et comment l'Université de Lille va s'intéresser à ces événements ?
Bon, il y a beaucoup d'événements, et j'ai envie de dire aussi, il y a déjà eu beaucoup d'événements, parce qu'on est maintenant déjà au mois de juin, donc l'année 2009 est déjà... on est à la moitié de l'année 2009, donc il y a eu des événements. Lille 1 a déjà fait... a déjà organisé plusieurs conférences qui ont eu lieu dans le cadre du cycle L'Espace, présenté à l'Espace Culture. Il y a eu à l'Observatoire de l'Université de Lille, qui se trouve donc pas sur le campus de Lille 1, mais qui se trouve près du Jardin des Plantes et de la Serre Équatoriale à Lille. Il y a eu des visites de l'observatoire, ce qu'on appelait les soirées du premier quartier. Donc chaque premier quartier de Lune, un groupe de personnes était invité à visiter l'observatoire et surtout à monter sous la coupole pour observer la Lune, puisque c'était à l'époque, au moment de son premier quartier, et puis les planètes qui étaient visibles à ce moment-là, lorsqu'il faisait beau. Il y a eu une grande conférence d'Alessandro Morbidelli qui nous a parlé justement de la théorie de formation du système solaire, puisque c'est sa spécialité. Voilà, ça c'est pour les expériences passées au niveau de, on va dire, l'université y à côté. Là maintenant, ça va être un peu plus calme au niveau de l'université pour l'été, mais il y aura quand même la nuit des étoiles qui seront faites par les clubs, au forum des sciences, au forum départemental des sciences, il y aura une exposition et des conférences.
Quelle date à peu près ça ?
Alors les dates de pour le programme des formes des sciences, il y a, je vois le 23 juin. C'est toute une série sur On vous promet la Lune. Donc autour de la Lune. Donc il y a la vie de Galilée, il y a des lectures spectacles sur avec justement la vie de Galilée de Bertolt Brecht. Il y a des conférences sur la Lune, parce qu'il faut savoir que 2009 c'est aussi les 40 ans. De 1969, un peu comme Radio Campus,
tout
je voyais
à fait,
justement.
40 ans,
les 40 ans de Radio Campus, les 40 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Hein, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça sur ce thème-là. Et à la rentrée, au moment de la fête de la science, l'île 1, donc participe tous les ans à la fête de la science, bien sûr, mais là il y aura un accent particulier sur l'astronomie. Donc il y aura une exposition. Le programme est en cours de construction. Il y aura une exposition d'objets astronomiques qui sont issus de l'Observatoire de Lille, d'ateliers d'astronomie et bien sûr de conférences.
Voilà, donc tout cela pour la rentrée. Sinon, le monde des astronomes actuellement, c'est un monde plutôt discret, calme, ou qui aime bien communiquer, informer les gens,
Je crois que c'est un monde de personnes qui aiment bien communiquer. J'arrive pas à dire si c'est plus que les autres scientifiques, plus que les physiciens, les chimistes, mais je pense que oui. D'abord, ils sont plus interpellés par le grand public, hein, et pour faire des conférences, pour répondre à des questions, parce que justement, l'astronomie, ça touche des questions, on y a fait un peu allusion tout à l'heure, mais des questions philosophiques. Nous, en tant que scientifiques, on essaye de rester neutre. Mm-hmm. Y a-t-il d'autres vies ailleurs que sur Terre ? Honnêtement et objectivement, on est obligé de répondre que non, mais après, on peut discuter autour. Donc on est plus, comme ça touche à des questions sensibles, la vie, le cycle de la vie, le cycle des étoiles, on est très interpellé. Et donc, on y répond, et je crois qu'on aime y répondre. Les gens aiment y répondre.
Sur le réchauffement de la planète, c'est pas votre domaine.
Non, 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 non. La seule chose, comme tout citoyen, quand on regarde la multitude, la seule chose que je peux dire quand même là-dessus, j'ai déjà été interpellé en disant ah ben maintenant on va sur la Lune, si la Terre n'est plus vivable, c'est pas grave, on ira sur Mars pour la transformer, ou sur les satellites de Jupiter. J'en suis pas si sûr. Je pense que, avant de voir si on pourra transformer d'autres planètes pour aller dessus, gardons celles qu'on a.
Très bien. Merci pour ce message d'avenir, monsieur Vienne, et très bonne soirée.
Je vous remercie. Bonne soirée.
Au revoir.